Bonsoir. Regarde-moi quand je te parle. Et puis lève la tête. C'est exaspérant cette façon que tu as de l'écraser par terre. Comme ça, c'est mieux. Et puis prends pas cet air fatigué. Si quelqu'un a le droit d'être excédé ici, c'est moi. Bon, pour la dernière fois, est-ce toi qui as mangé le plateau de fromage? Mais comment as-tu fait pour les sortir des papiers sans rien déchirer? Le chat? Mais je croyais que tu le détestais. Bah, tu le terrorises. Pour jouer? Donc tu l'aimes. Tu aimes le fromage. Ah bah ça, j'avais remarqué. Vous avez fait le coup tous les deux? Le chat aussi, il a mangé les fromages? T'es pas une balance? Mais d'où tu connais ce mot? Mais c'est scandaleux! Est-ce que je vole vos croquettes, moi? Tu veux bien m'en donner, mais je m'en fiche, j'aime pas ça! Comment ça, de quoi je me plains alors? Eh ben, je me plains d'être m'être fait voler mon plateau de fromage! T'en offrir, non, mais t'es dingue! Du Beaufort d'été à 34 euros le kilo que tu fais même pas la différence avec de la vache qui rit? Je te prends pas pour un con, je te prends pour un chien!
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Vinciane Després, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir d'ailleurs, plutôt vu l'heure. Vinciane, merci d'être venue jusqu'à nous. Vous venez de Liège. Vous êtes philosophe, psychologue, éthologue, enseignante à l'Université de Liège, écrivain. On trouvera la liste de vos livres sur le site d'État d'esprit. Le petit dernier s'appelle Le chez-soi des animaux et il est édité chez Actes Sud. Alors nous allons évoquer avec vous, Vinciane Després, ce soir, deux choses sur lesquelles vous vous penchez qui font partie de notre vie intime. Il s'agit de notre vie avec les animaux. Ignorance, cruauté, amitié, dépendance, amour ou gâtisme. Et puis d'autres choses que je n'évoque pas là, mais des entre-deux. Et puis de la vie avec nos morts. Il ne s'agit pas d'histoires de fantômes, mais de la place qu'ils prennent dans nos pensées et dans nos actions. Un vivre ensemble, un vivre au quotidien, peut évoquer. Alors d'abord les animaux. Longtemps, jusqu'à la guerre de 40 à peu près, on a pensé que les bébés humains ne souffraient pas, ne pensaient pas. Et puis assez récemment, on s'est aperçu de la richesse de leurs ressentis. J'ai l'impression que vous, les éthologues, vous avez fait ce même travail avec les animaux. Longtemps, on a pensé que c'était des espèces de mécaniques vivantes dont on pouvait user comme on voulait. Et maintenant, on prend conscience de leurs ressentis. Et ça, c'est grâce à vous, les éthologues, les philosophes, où vous avez un parcours un peu particulier. C'est grâce à vos observations?
Alors, c'est grâce aux observations des éthologues, parce que moi, je suis éthologue des éthologues, en quelque sorte, je pourrais dire, puisque j'observe les éthologues, ou je les accompagne dans leur travail, ou j'accompagne leur invention et leurs inventivités. Et je trouve par ailleurs que votre parallélisme avec les enfants est tout à fait juste. On constate en effet que quantité d'expérimentations qui étaient tout à fait acceptables faites aux enfants il y a quelques décennies d'ici.
Vous rendez compte qu'on les opérait sans anesthésie?
On les opérait jusque dans les années 80. Hein, on curarisait pour éviter qu'ils ne bougent. Et puis moi j'ai vu des expériences encore dans les années 60 où par exemple on essayait de voir si une maman était capable de différencier les pleurs d'un bébé qui avait peur, qui était effrayé brutalement ou bien dont on piquait la joue avec une épingle.
Donc c'est, voilà. C'est choquant maintenant.
C'est très choquant maintenant, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce qui a changé en effet, c'est que ce qu'on disait aussi il y a 20-30 ans d'ici, c'est, tout le monde ne disait pas ça, mais j'ai entendu dire que ça sert à rien de parler aux bébés puisque de toute façon ils comprennent pas. Ce qui faisait des bébés qui pouvaient être très dépressifs. Et on pouvait aussi dire, ça sert à rien de parler aux animaux, ils comprennent pas. Mais allez savoir ce qu'on comprend et qu'est-ce que sont les mots, si ce n'est un manteau qui permet d'habiller de tendresse et de lien et de quantité d'autres choses. C'est un manteau aussi qui rend attentif, qui protège. Et donc parler était très important, mais on n'y pensait pas.
D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos livres. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions chez La Découverte?
Oui, alors c'était un livre que j'avais écrit où je continuais un constat qui m'était venu il y a quelques années d'ici, quand j'avais commencé à travailler avec les animaux. C'était le fait que les éthologistes et les scientifiques et aussi les gens qui savent avaient vraiment modifié les conceptions qu'on a à propos des animaux. Et ces modifications de conception étaient aussi passées par le fait de leur poser des questions très différemment. Alors l'exemple le plus banal, enfin c'est pas banal du tout, mais pour moi le plus évident, c'est de voir comment les chimpanzés par exemple ont changé entre les années 60 et les babouins les années 60 et les années 80. On va leur poser de toutes autres questions. Et puis dans cette foulée-là, on peut voir par exemple le travail d'une primatologue qui s'appelle Thelma Hoel, qui dit, mais tiens, pourquoi est-ce que les moutons sont toujours considérés comme si bêtes? Et puis qui va se dire, mais quelles sont les questions qu'on leur pose? Et puis à un moment donné, elle va se dire, et si on posait aux moutons les mêmes questions que ce qu'on pose aux chimpanzés, mais adaptées aux moutons, est-ce qu'on ne découvrirait pas des choses? Et puis le fait de demander aux moutons, est-ce que vous êtes sociaux? Est-ce que vous avez des amis? Et des choses comme ça, et bien on se rend compte que les moutons avaient des histoires bien plus compliquées à raconter, étaient bien plus sophistiquées du point de vue cognitif et social. Ce qui fait que, en effet, en modifiant les questions, on modifie aussi la possibilité de la réponse.
C'est vrai, Vinciane Després, qu'on s'est beaucoup penché sur le chimpanzé. Pourquoi? Parce qu'il nous ressemble, à votre avis?
Oui, oui, il y a une espèce de privilège de cousinage, je pense. Là, Charité vient de l'ordonner. Donc, il y avait une espèce de, oui, une espèce de privilège. De... Soit il était notre ancêtre, alors il fallait quand même se donner un ancêtre glorieux. Soit il était considéré comme le cousin. Et donc, ça voulait dire que forcément... Il devait être plus intelligent que les autres.
C'est vrai que les moutons, on en parle guère, peut-être avant vous, Vinciane Després. Rendons-nous dans une petite ferme d'autrefois où les bêtes étaient peut-être plus proches des hommes.
Maurice vient tout juste de lâcher son troupeau de moutons dans un nouveau pâturage. Dans peu de temps, avant les grandes chaleurs, Maurice les fera tondre et vendra ensuite cette laine qui servira à faire des pulls. Autrefois, tous les agriculteurs trayaient leurs vaches à la main, les unes après les autres. Maintenant, les fermiers utilisent des trayeuses électriques. Lorsque la traite est terminée, la fermière sort les vaches de l'étable et les conduit au pré. Tout d'abord, elles avalent de l'herbe pendant un bon moment, sans la mâcher, en se déplaçant dans le pré. Puis, elles se couchent pour remonter de leur estomac des boulettes d'herbe. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles mâchent vraiment.
Alors, Vinciane Després, ça c'est un petit peu un mécanisme physique qui nous est expliqué là, mais j'ai retenu traite à la main. C'était quand même un rapport avec les bêtes qui était différent. J'imagine que pendant qu'on trayait sa bête à la main, il se passait quelque chose.
Ah, il se passait quelque chose, et tant pour les bêtes que pour les humains. J'avais entendu il y a quelques années d'ici un journaliste qui s'étonnait du nombre de suicides qu'il y avait dans les élevages pendant une certaine période de temps. Et les éleveurs eux-mêmes disaient, le fait de ne plus avoir de contact physique avec leurs animaux, le fait d'avoir tout mécanisé, faisait que tout ce qui faisait la joie de ce métier, tout ce qui faisait la beauté de ce métier, tout ce qui faisait l'affectivité de ce métier, pouvait être perdu et pouvait diminuer les capacités de résistance aux difficultés que les éleveurs peuvent avoir. Mais avec Jocelyne Porcher, on n'a pas cessé, quand on est allé visiter des éleveurs, ce qu'on avait choisi, c'était de visiter des éleveurs heureux. Donc des gens qui vivent avec leurs animaux.
Vous êtes allé au Portugal, vous avez rencontré des femmes d'ailleurs.
On a rencontré des femmes au Portugal, on a rencontré des éleveurs en France, on a fait quand même pas mal de régions. On est même allé en Belgique tant qu'on y était. Et alors on a rencontré des éleveurs heureux qui nous parlaient des relations avec leurs animaux. Et une des choses vraiment qui nous a étonné, d'abord c'est la capacité de relation et d'affectivité qui sont présentes dans ces élevages, et également ce qu'on a appris sur ces animaux. Parce que moi, je connaissais bien les animaux des scientifiques jusque-là, c'est-à-dire que je lisais la littérature scientifique, où je rencontrais des scientifiques, et je pensais que les scientifiques étaient les gens les mieux à même de décrire ce que c'est qu'une compétence d'un animal donné. Et j'avais rencontré pas mal d'éthologistes dont j'avais appris des choses absolument extraordinaires et inattendues de la part des animaux, que je parle des oiseaux, des corbeaux, de... enfin bref. Puis en écoutant les éleveurs, moi j'ai découvert qu'il y avait quand même énormément de savoir chez ces personnes, rigoureux, de savoir passionnant, de savoir penser avec sagesse et avec soin. Et que moi je savais très très peu de choses des vaches en fait et des cochons, simplement parce qu'à l'époque la littérature scientifique ne s'y intéressait très peu. Et les éleveurs savaient énormément de choses. Et on a découvert que les vaches et les cochons étaient capables de choses absolument drôle, inventive, intelligente. Bon, ça, Jocelyne Porcher le savait déjà parce que ça faisait très longtemps qu'elle travaillait dans les élevages. Mais ce livre a été vraiment pour nous l'occasion de rassembler tout ce qu'on avait découvert sur deux routes qui se croisaient, celle du fait d'être heureux et celle de l'intelligence.
Magnifique. Alors, ce livre où vous racontez donc cette observation, vous avez observé les éleveurs qui observaient leurs bêtes. Ce livre, c'est un très joli livre qui est vraiment passionnant. Être bête, c'est chez Actes Sud, et vous l'avez écrit Vinciane Després, avec Jocelyne Porcher, vous venez de la citer. Écoutez bien, puisqu'on parle d'animaux, je vais vous parler de zoos. Nous allons évoquer les zoos tout à l'heure avec cet autre livre que vous avez écrit également chez Actes Sud, le chez-soi des animaux. Zazie, à sa visite au zoo, Zazie, suçant son zan, s'amusait. On dirait du Bobby Lapointe, et c'est du Jane Birkin, musique Serge Gainsbourg.
Zazie, à Saint-Visidozon. Zazie, suçant son zon, s'amusait d'un verre luisant. Isidore, Ison, quand zut un vent blizzard, fusant de son phasard, voici zigzagant dans les airs. Zazie, semblait zèle l'oiseau des îles prises aux ombres. S'éclate dans l'azur aussi légère que bulle d'Alcancelser. Elle visionne nos eaux, survolant chimpanzés, gazelles, lézards, zébubus et grizzlies d'Asie. L'oiseau des îles épris aux ombres, pas l'autre zèbre. Bon, le zigzazie, le fusillant de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de argent, scazo.
Inter. Noël Bréham, état d'esprit.
Vinciane Després, nous parlons avec vous ce soir des animaux, puisque c'est votre métier, d'abord philosophe et ensuite psychologue, écrivain et observatrice des observateurs des animaux avec ce petit livre édité chez Actes Sud, Le chez-soi des animaux. Où est-ce qu'ils habitent les animaux ? C'est quoi cette histoire, ce livre?
Oui. Alors c'est une histoire, c'est, en fait, pour tout dire, c'est une commande qui m'a été faite par à la fois Patrick Bouchain, la Fondation de France et le parc de Branferry, qui est un parc zoologique, qui est un jardin où les animaux vivent en liberté.
Dans le Morbihan, dame
d'Amouy. Oui. Et c'est magnifique. Alors pour le renouvellement de ce parc et à la fois son 50e anniversaire, ils avaient décidé d'organiser une fête. Une célébration et une des modalités de cette célébration. On m'avait demandé une adresse aux enfants, avait dit Patrick Bouchain. Donc on réunissait des enfants. Donc je me suis dit, bon, mais c'est un architecte qui me le demande, c'est sur un lieu qui pense à la cohabitation, puisque comment est-ce qu'on laisse des animaux en liberté? Mais vous pouvez pas laisser des lions avec n'importe qui. Donc c'est calculé, c'est pensé. Je me suis dit, mais tiens, je ne me suis jamais intéressée à savoir qu'est-ce que ça veut dire être chez soi pour un animal? Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Qu'est-ce qu'ils construisent les animaux? Est-ce qu'il existe une architecture animale? Donc c'est toutes des questions qui m'ont traversée et j'ai commencé à m'intéresser. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est que Thierry Bédard de la Compagnie Notoire, qui savait ce sur quoi je commençais à réfléchir, m'a envoyé un très joli texte de Zygmunt Bauman, qui est un sociologue, et qui avait écrit quelque chose à propos des guêpes de Panama, et qui disait, on observait des nids de guêpes de Panama pendant des années et des années. Tous les chercheurs étaient persuadés, comme on est persuadé pour tout ce qui est guêpes et abeilles, que chacun chez soi, et que la moindre intruse qui risque son nez à l'entrée d'un autre nid ou d'une autre ruche, se fera immédiatement soit repoussée, soit passera un très très mauvais moment.
Ah, les guêpes sont Front National donc?
Eh bien, on le croyait. Et puis à Panama, ils ont changé le système d'observation. Et au lieu de marquer les guêpes chacune personnellement par des petites couleurs, ils ont mis des petites balises qui permettaient de vérifier, grâce à un œil électronique, qui entrait dans l'un des 36 nids qui composaient le site d'observation. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Que plus de 50% des guêpes qui entraient dans les nids, qui en ressortaient, mais qui y restaient, étaient des guêpes étrangères qui n'étaient pas nées dans les nids. Et donc Baumann dit, elles sont pas du tout guerrières. On a imaginé ça parce qu'on n'avait pas les moyens d'observer, parce que on s'était fait toute une idée sur les guêpes très très, très guerrières et tout. Et donc, dit-il, il y a peut-être notre conception des animaux et de l'habitat des animaux qui doit changer. Et je me suis dit, tiens, mais ça, ce serait une belle idée, puisque c'est une conférence à des enfants, de commencer à penser avec les enfants, tiens, mais qu'est-ce qu'on s'est imaginé jusqu'à présent? Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis intéressée à l'architecture animale, parce que c'est des beaux problèmes, l'architecture. Comment les guêpes potières ont inventé la poterie, comment les fourmis ont inventé le carton, comment on oriente une termitière en fonction du soleil, est-ce que c'est en fonction, il y a des controverses, est-ce que c'est en fonction du vent, etc. Toutes ces choses que je découvrais m'ont fait réaliser une chose, c'est que dans les années 70, Von Frisch écrit un livre sur les architectures animales, qui est la Bible sur les architectures animales. Il y a 3 ou 4 cas de cohabitation entre êtres de différentes espèces.
Ça, c'est intéressant.
Et qu'est-ce que je vois dans la Bible de l'architecture animale, qui est de Mike Ansell maintenant, qui est un zoologue anglais, qui est passionné d'architecture? Je vois 2005, un chapitre énorme, est consacré à toutes les formes de cohabitation, non seulement spécifiques, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble, mais interspécifiques. On découvre que des poissons de la famille des gobies vivent avec des crevettes semblables aux crevettes pistolets, par couple, dans le même nid, se protègent l'un l'autre, partagent le nid. C'est la crevette qui creuse le nid parce qu'avec ses pinces, elle peut le faire. Le poisson la protège par rapport au danger extérieur parce qu'elle voit très mal. Elle nettoie le poisson, ce qui la nourrit, ce qui déparasite le poisson. Et donc, il y a plein d'accords, plein d'associations dans le fait d'habiter ensemble. Donc, habiter devient non plus simplement avoir une protection, etc. Ça devient un acte social.
Un peu comme l'homme et le chien, nous y reviendrons au cours de cette émission.
Tout à fait.
Finalement.
Tout à fait.
Deux espèces qui
Et dans le livre pour enfants, en effet, j'imagine que les animaux vont faire un dialogue pour échanger entre eux. Mais comment habitez-vous? Comment habitons-nous? Comment est-ce qu'on doit définir ce que veut dire habiter, etc. Et quand on pense, en effet, des protections, les chiens vont intervenir dans le dialogue et vont dire, mais oui, c'est exactement ce que nous faisons avec les humains.
Alors, ce livre s'appelle Le chez-soi des animaux et c'est édité chez Actes Sud. Vinciane Després, vous observez les observateurs des animaux? C'était des hommes qui observaient les animaux, autrefois, pour faire simple. Et quand les femmes se sont mises à observer des animaux, vous avez remarqué deux choses. C'est qu'elles y passaient plus de temps, qu'elles avaient peu de chances d'avoir une grande réussite sociale, d'aller dans des conférences et de publier, donc elles restaient sur le terrain. Donc en observant plus longtemps et en posant des questions de femmes, qui n'étaient pas forcément des questions guerrières, de mâles dominants et tout ça, elles ont observé d'autres choses dans l'organisation des animaux.
Tout à fait, c'est quelque chose qu'on constate, qui est arrivé dans l'histoire de la primatologie. Et c'est dans les années 60, 62, 63, il y a quelques femmes qui vont arriver sur le terrain. Il y a Thelma Rowell, celle dont j'ai parlé à propos des moutons. Il y a Jane Goodall, hein, qui est fameuse. Et en effet, comme vous le dites très bien, ces femmes avaient très peu de chances d'accéder à un poste universitaire de prof, en tout cas. Par contre, des bourses, c'était possible. Et donc, elles restaient. Quitte à rester sur le terrain, elles restaient sur le terrain qu'elles connaissaient bien. Et donc, quelqu'un comme Thelma Rowell est resté des années 62, 63. Jusque fin des années 60. Et en restant très longtemps, comme l'a fait Jane Goodall et comme le feront d'autres, en fait, on observe des choses qu'on ne pouvait pas observer. Et notamment, une chose qui avait échappé aux recherches plutôt masculines.
Pertinentes, hein, mais.
Tout à fait, mais qui étaient de courte durée, c'est qu'ils n'avaient pas réalisé que dans beaucoup des troupes qu'ils observaient, notamment chez les babouins, mais chez la plupart des babouins, en fait, les mâles ne restent pas dans la troupe. Ils quittent la troupe natale. Et ils vont déménager assez souvent. Ce sont des migrants, ce sont des nomades. Mais ça veut dire que tous ces systèmes de hiérarchie qu'on avait imaginé être l'organisation sociale caractéristique de l'organisation, par exemple, des babouins, ça pouvait pas logiquement être le cas. Puisque les mâles ne restent jamais très longtemps, comment voulez-vous instaurer un système de pouvoir extrêmement rigide si vous n'êtes pas là très longtemps? Et donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est, alors ça c'est Shirley Strum qui viendra avec cette idée-là, c'est qu'en observant les femelles, elle va comprendre que le rôle des femelles est central au point de vue des réseaux affiliatifs. Et que c'est vrai que les mâles peuvent faire peur parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils peuvent être nerveux, etc. Mais que, en fait, ce sont des manifestations de pouvoir, mais qui n'ont pas de réel effet. Ils font peur à tout le monde, mais on ne fait pas très attention à eux. Ce sont souvent des jeunes mâles très dégrossis, mal équipés socialement, qui savent pas très bien se débrouiller pour essayer de s'intégrer dans la troupe, parce qu'ils doivent chaque fois faire un effort d'intégration.
Oui, on leur demande beaucoup d'énergie.
Ça leur demande de l'énergie, ça leur demande des compétences sociales. Et les vieux mâles qui sont plus très très vaillants, qui sont pas très forts, eux vont plutôt utiliser des signes d'amitié, vont utiliser leur intelligence sociale. Et donc, tout ce qu'on imaginait être des effets de hiérarchie, en fait, c'était pour la plupart des effets simplement de menaces de la part de jeunes mâles qui essayaient d'apprendre ce que veut dire être un bon babouin.
Vincent Després, donc, on s'est aperçu avec ces observations que les animaux avaient une vraie personnalité. Chaque espèce a sa personnalité et à l'intérieur d'une même espèce, bien entendu, chacun a son caractère. J'aimerais vous faire entendre un procès qui est célèbre ici en France, qui s'appelle le procès de Falaise, en Normandie, au Moyen-Âge, où une truie était accusée d'avoir tué un bébé.
Nous décidons que le procès de l'animal aura lieu en lieu sûr, dans la salle des gardes du château de Falaise.
Il ne fait aucun doute que cette même truie aura pu s'introduire quelques jours auparavant dans l'étable des Lemaux et accomplir ainsi son forfait.
D'après vous, les bêtes, même les plus féroces, dotées d'intelligence mais dominées par leurs instincts, ne seraient pas justiciables devant Dieu et pourraient ainsi commettre les crimes les plus affreux en toute impunité.
J'interroge la cour, monseigneur, pour un procès équitable.
La séance est levée.
C'était un extrait d'Autant en emporte l'histoire de Stéphanie Duncan. Alors pour nous, Vincent Després, en 2017, c'est assez stupéfiant, le procès d'une truie.
Alors ça nous paraît stupéfiant, ouais. Et pourtant c'est un moment bien intéressant. Parce que ça voulait dire que les animaux étaient considérés comme ayant, vous savez ce que les Américains appellent l'agency. Alors qu'on traduit maladroitement par la gentilité, c'est-à-dire la capacité d'avoir une action sur autrui. Avoir de la gentilité, avoir de l'agency, c'est avoir de la puissance d'agir. Ça veut dire une certaine possibilité, non pas d'autonomie d'action, parce que qui est autonome finalement, c'est toujours les autres qui nous font agir. Toujours est-il que ce sont des moments intéressants ces procès. D'abord parce qu'on reconnaissait aux animaux leur puissance d'agir, ce qui est devenu beaucoup plus difficile ultérieurement, puisqu'ils ont fait partie en quelque sorte du monde des objets, et plutôt du monde des sujets. Et puis, il faut voir comment ces procès étaient menés. Il y avait des avocats qui défendaient très sérieusement ces animaux. Il y a eu un procès des termites où les moines, par exemple, qui se plaignaient des termites qui avaient à peu près écroulé leur monastère, ont dû leur fournir du bois à l'extérieur du monastère avant de les prier de déménager. Et dans les procès des cochons, je me souviens d'un procès qui a eu lieu où une truie avait en effet tué un enfant. Elle était accompagnée de ses petits cochons, de ses porcelets. Eh bien, il y a eu un procès. Les porcelets ont été défendus par l'avocat, comme la truie d'ailleurs. La truie était condamnée à la pendaison. On l'a pendue, oui. Et les porcelets ont été, eux, graciés parce qu'ils étaient trop jeunes et qu'ils n'avaient pas encore pleine conscience. Donc, voyez.
Ils ont été
pris en charge par l'État parce que l'État a été obligé d'être le tuteur de ces petits orphelins. Ils devaient se substituer à cette
mère. Mais qui
payait
l'avocat de la truie?
Alors là, c'était la communauté qui se chargeait de ce genre de choses. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, ça nous paraît très bizarre et tout. Mais dans cette bizarrerie, il y a quelque chose aussi qui nous dit quelque chose de notre bizarrerie à nous. Et notre bizarrerie à nous, c'est que nous soyons tellement stupéfaits par cette histoire, ouais. Comme si les animaux étaient de pure mécanique. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, quand on parle, par exemple, de redonner des droits aux animaux, etc., qui est un tout autre sujet, en fait, la question, c'est comment on va faire re-rentrer l'animal dans le droit d'une autre manière que la façon dont il a été jusqu'à présent.
Je rappelle, Vincent Després, que vous vous penchez sur les animaux, mais que votre métier d'origine, c'est d'être philosophe. Nous parlerons tout à l'heure des chiens avec vous, Vincent Després, dans État d'esprit.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout tout me plaît. Les mains sont lies, vite, vite, vite. Mains sont lies, vite, vite, vite. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. My station. Patience comme certitude, collier à trois fils, 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 lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Ah, oh, 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 oh.
The Queen, Saint-Claude, elle a eu pour cette chanson deux victoires, celle du clip et aussi la victoire de la chanson la plus originale. C'était en 2014. Nous parlons des animaux avec vous, Vinciane Després. Vous avez écrit beaucoup de livres qui concernent les animaux, leur observation. Vous les trouverez sur le site d'État d'Esprit. Le petit dernier s'appelle Le chez-soi des animaux et il s'adresse aux petits. Il est édité chez Actes Sud, enfin petit à partir de 10-12 ans, on
oui,
va
c'est
dire.
Cela, oui.
Mais si vous saviez, Vinciane Després, le nombre de choses que j'ai apprises dans les livres consacrés aux 10-12 ans. Quand on est profane, on a 10-12 ans. Hein.
Oui, oui, et ils sont exigeants et ils sont curieux.
Heureusement.
Et j'ai appris aussi en interrogeant des personnes autour de moi qui connaissaient mieux les enfants que moi, que par exemple, ils sont très heureux de découvrir des mots qu'ils ne connaissent pas, de se laisser surprendre par des choses nouvelles. Et donc, certaines difficultés, en tout cas, ne les rebutent pas. Au contraire, ça les met en appétit.
Est-ce que vous pensez, Vinciane Després, que les enfants aiment mieux les animaux que les adultes? On va parfois aux zoos pour emmener les enfants. On a l'impression que les enfants sont demandeurs d'avoir un animal, plus que les adultes.
Alors, je ne sais pas si les enfants aiment mieux les animaux que les adultes.
Bon, ou les respectent, ou les comprennent.
Alors, ça dépend, parce que vous savez, tirer sur la queue d'un chien, couper un verre de terre
c'est
en
vrai.
Petits morceaux,
oui,
ça
vrai.
Peut aussi arriver.
Oui, oui, écraser un scarabée.
Voilà, bon. Alors, je ne sais pas, ça peut arriver aussi, peut-être, parce que les enfants, ils expérimentent et que... Mais par ailleurs, quand j'ai été justement préparée cette conférence et que j'ai été rencontrée des enfants, j'ai entendu des choses assez extraordinaires. Je leur avais posé la question, je leur avais dit je suis philosophe, vous savez, vous êtes français, vous savez ce que c'est que la philosophie. C'est, je,
ben, vous êtes belge, hein,
moi je suis belge. Donc ils disaient oui, oui, on connaît un peu ce que c'est que la philosophie. Je leur avais dit comment est-ce qu'on peut s'intéresser, nous les philosophes, aux animaux. J'avais dit, ben, moi une question par exemple comme philosophe qui me vient, c'est une question très concrète, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on est persuadé que les animaux sont bêtes et ne parlent pas et ne comprennent rien? Eh bien, leur poser cette question-là à ces enfants, eh bien, ça a eu tout de suite une réponse. Ils n'ont pas répondu littéralement à ma question en disant « ça commence probablement à tel âge » parce qu'ils avaient compris que ma question était une question qu'il fallait explorer et pas essayer d'y répondre. Et il y en a qui m'a dit « par exemple, moi, mon chien, il me parle ». Et je le comprends, et il comprend ce que je lui dis, et même il rit. Et puis on a demandé, est-ce que d'autres personnes que vous comprenez votre chien? Eh ben non, justement. Je... Et donc on a pu travailler là-dessus.
C'est beau,
qu'est-ce qui arrive qui fait que les enfants ont encore des modes de communication possibles avec des animaux et qu'on les perd par après?
Et à votre avis, pourquoi? La peur du ridicule?
Non, je crois qu'on devient négligent. Qu'on perd. Vous savez, il y a des. Alors, est-ce que c'est des pertes? En tout cas, Daniel Stern, il est pédopsychiatre, mais on pourrait vraiment l'appeler l'éthologue des bébés, montre à quel point les enfants, les tout petits, ils ont une synesthésie riche, c'est-à-dire ils sont transmodaux. Si un enfant voit une tache de soleil, il va aller la goûter, il va aller mettre sa joue dessus, il va essayer de l'attraper, puis il va essayer de l'écouter. Parce qu'en fait, le régime d'appréhension du monde est un régime qui n'est pas encore catégorisé. Les catégories qui sont d'ailleurs très culturelles, hein, mettre la vision d'un côté, l'ouïe de l'autre, les sensations de chaleur, classement. Etc. Eh bien, le classement, la catégorisation fait partie d'un acte culturel, d'une fabrication, d'une discipline culturelle qui émerge majoritairement, notamment avec le langage, et qui n'émerge pas chez tout le monde. Oui. Les poètes gardent la possibilité de passer d'une catégorie à l'autre. Certaines personnes qui peuvent voir des nombres en couleur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la catégorisation. Il y a une forme de mise en discipline de notre façon d'appréhender le monde et de sentir le monde. Et peut-être que les enfants, ils sont encore dans un stade où cette discipline n'a pas encore totalement pris. Et donc, ils sont peut-être encore capables d'entendre parler les chiens.
Et vous, Vinciane Després, vous avez commencé par être philosophe, puis après psychologue.
Oui.
Et puis après, éthologue d'éthologue.
Oui, c'est cela, oui, oui, oui.
Et quand vous étiez enfant, vous aviez un animal, vous étiez proche des animaux ou...
Alors, j'ai eu un chien très jeune qui était vraiment, c'est une expérience extraordinaire, ce chien. Il y avait une affection, un amour, et puis, bon, à un moment donné, ce chien est parti.
C'est ça le problème des chiens, c'est qu'ils vivent pas très vite.
Ma mère a dit, plus jamais tu m'as brisé le cœur. Et puis, 6 mois après, quelqu'un s'est arrangé pour faire oublier à ma mère que j'allais avoir le cœur brisé. J'ai eu un chien. Et donc, je me souviens de deux sortes d'animaux dans mon enfance. C'est ces chiens qui m'ont accompagné, qui étaient vraiment des êtres que j'aimais profondément, dont j'ai le bonheur de penser qu'ils m'aimaient aussi. Et puis, j'aimais le chant des oiseaux. Je me souviens que, par exemple, les pigeons ramiers qui étaient dans le jardin de ma mère, j'étais extrêmement attentive parce que, à tort probablement, mais pour moi, je les entendais quand le printemps arrivait. Et puis, quelqu'un m'a dit un jour, mais tu sais, ils s'arrêtent pas en hiver, c'est parce que tu les entendais pas. Mais en tout cas, il y avait des connexions entre ces pigeons ramiers. Alors, toute petite, parce que j'ai 6-7 ans, mais le printemps, je l'attendais avec impatience. Et ces pigeons ramiers, pour moi, j'appelais ma mère, je disais, ils ont chanté le printemps, tu vas voir, il est là. Donc, des connexions avec les oiseaux. Connexion qui est restée très tard d'ailleurs et qui est toujours là parce que j'ai une passion pour les merles.
Ah oui?
Ah oui, le chant des merles, moi, est quelque chose qui me transporte.
Oui, je comprends.
Ça peut me bouleverser une nuit à partir de 4-5 heures du matin quand ils se mettent à chanter au mois d'avril-mai. C'est de l'ordre de l'événement.
Oui, je comprends. Oiseaux, merles et chiens. Justement, à propos de chiens, hein, le chien, c'est cette espèce d'être qui est mi-homme, mi-bête. Écoutons un extrait de ce documentaire sur les rapports d'un SDF avec son chien.
Boulevard Anspach, à 2 pas de la Bourse, les passants font mine de ne pas voir Christophe. Ils ne sont que quelques-uns à jeter un œil navré sur Xéros, son chien. Ils dorment ensemble sous une tente, dans le bois de la Cambre ou la forêt de Soigne. C'est qu'à Bruxelles, les centres pour sans-abri qui accueillent les chiens sont rares. Alors Christophe préfère dormir dehors. Être avec Xéros, ça compte plus que d'être au chaud.
Voilà, il s'agit d'un SDF de Bruxelles, vous l'avez entendu, Vinciane Després, mais c'est la même chose dans les autres villes. C'est fort quand même, préférer dormir dehors avec son chien que dedans, sans son chien.
Oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu maintenant, qui manifeste d'ailleurs une certaine carence des services d'aide et des services sociaux. Quand on sait que ces chiens sont, je crois que les personnes qui sont sans domicile fixe seraient d'accord avec moi, sont nécessaires et plus qu'impérieusement nécessaires, non seulement à la survie de ces personnes, mais aussi, j'ai des étudiants, donc je donne un cours d'éthologie à l'Université de Bruxelles, et des étudiants font parfois comme travail, je leur laisse choisir un sujet, du moins qu'il s'agisse de relations humains-animaux, et ils sont allés interroger des personnes sans domicile. Et ils sont revenus en disant que ces chiens aussi faisaient que ces personnes avaient encore des contacts avec les autres. Parce que quand on passe devant eux, on n'ose pas leur parler, ça nous intéresse pas.
Mais on parle aux chiens.
On parle aux chiens, qui est une façon. Et donc le chien garde le lien avec les autres. Et ces chiens, ils le disent eux-mêmes, c'est pas du tout pour avoir plus d'argent, c'est pas du tout pour se protéger.
C'est bien pour avoir quelqu'un.
Bien que ce soit une des conséquences possibles, mais c'est parce que si ça leur permet d'avoir des liens encore avec les autres, parce que les gens viennent pour le chien, viennent parler au chien, viennent caresser le chien. Quand on dit les animaux, certains animaux et les chiens particulièrement, nous ont rendus humains, Je pense que ces personnes le vivent au quotidien.
C'est ce que disait le héros de la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Le Chien. C'est un chien qui m'a rendu humain. Le 11 novembre dernier, dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui est un journal populaire qui marche bien ici en France, eh bien, il y avait un petit article qui signalait la mort d'une chienne, Hucky, qui avait 14 ans et qui était la chienne de la caserne de pompiers de Chevreuse. Quand même, elle a eu un article dans le journal, cette chienne, en fin 2016. C'est pas mal, hein?
On en vient de plus en plus, en effet, à considérer que ce sont des relations. Alors, certains, évidemment, continuent à crier au scandale, évidemment, mais bon, c'est bien, qu'il y ait des gens qui crient au scandale, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir qu'on n'est pas tous les mêmes et composer un monde, ça demande de négocier, d'être diplomate. Mais je trouve que c'est assez intéressant, en effet, que ces animaux commencent à être considérés comme étant des espèces compagnes, dirait la philosophe Donna Haraway, c'est-à-dire celle avec qui on partage le pain, companis, c'est-à-dire celle avec qui nous vivons. Et les chiens ont un statut privilégié parce qu'ils savent y faire avec nous et parce qu'il y a toute une évolution qui s'appelle l'histoire de la domestication. Mais il n'y a pas que, et je pense que c'est quelque chose qui est en train de nous rendre peut-être aussi plus sensibles aux faits, aux promesses de la flexibilité de nos capacités relationnelles.
Ah oui, ça vit faire. Par exemple, si vous voulez demander quelque chose, une augmentation, disons, regardez la façon dont votre chien réclame son repas. C'est-à-dire qu'il le fait avec joie, avec énergie, et il n'abandonne jamais. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas sa gamelle, il va vous faire comprendre d'une façon ou d'une autre, mais jamais avec aigreur.
Non, c'est exact.
Jamais en disant c'est dégueulasse, je suis moins payé que les autres. Mm-mm. Toujours avec joie. Et il finit par obtenir. Enfin, je ne connais pas les chiens des autres, mais le mien l'obtient, je peux vous dire. Alors que nous, quand on réclame quelque chose, on y met assez vite un peu de mauvaise humeur.
Oui, et puis on en fait un problème personnel. Je ne suis pas sûre que les chiens en font un problème personnel, ils en font un problème relationnel.
Absolument, bravo. Philosophe que vous êtes, Vinciane Després.
You're my favorite. You're my
Apart, c'était Bonobo, comme ça se trouve, et Rai. Nous parlons des animaux avec vous, Vinciane Després. Ce soir, nous parlons des animaux parce que c'est votre métier. Vous êtes philosophe au départ, puis psychologue. Éthologue, vous êtes quand même éthologue, même si vous dites que vous observez les éthologues. Vous observez les animaux aussi.
Oui, mais toujours par personne interposée. Donc, j'ai fait les études d'éthologie. À cette époque-là, il y avait moyen de faire des études d'éthologie en étant dans la filière psychologue. J'ai fait quelques terrains seuls, mais pas suffisamment pour être une bonne éthologue aguerrie. En revanche, très rapidement, j'ai compris que je m'amusais vraiment bien en suivant des éthologues sur leur propre terrain et en les interrogeant, comme l'avait fait Bruno Latour, avec des scientifiques, c'est-à-dire une pratique de terrain qui est une pratique simplement de philosophe voulant faire de l'épistémologie non plus en cabinet, non plus une épistémologie normative qui impose de l'extérieur aux scientifiques comment ils devraient travailler, mais simplement qui apprend à accompagner les scientifiques là où ils sont intéressants.
Parce que finalement, ce qui vous intéresse, Vinciane Després, ce sont les animaux, mais c'est l'homme, et c'est l'homme et les animaux.
Voilà, c'est les deux.
C'est un petit peu la phrase de Gandhi que j'ai perdue, mais que je vous cite de mémoire. Il parlait d'un peuple, mais ça vaut pour une personne, il parlait pour les nations. On peut juger une nation à la façon dont elle se comporte avec les animaux.
Tout à fait.
Si on est barbare avec les animaux, ça veut quand même dire qu'on a quelque chose qui n'est pas très équilibré.
Tout à fait. C'est en général un mauvais signe. Yourcenar avait dit ça aussi, hein, que c'était un mauvais signe parce qu'en général, elle me disait que la cruauté à l'égard des animaux était souvent une étape précédente à de la cruauté à l'égard de certains humains. Oui, elle disait qu'il s'était fait la main dans les wagons à bestiaux.
Quelle horreur.
Qu'il s'était fait la main d'abord avec les bestiaux.
D'ailleurs, Marguerite Yourcenar, qui était une espèce d'écologiste bien avant l'heure, qui avait déjà des notions sur son île là aux États-Unis, et je crois qu'elle avait déjà mis en pratique des choses très avant-gardistes.
Oui. Puis c'était quelqu'un qui était préoccupé de justice. Et moi, je suis pour le moment dans la lecture d'un très beau livre dirigé par Emily H, qui s'appelle Écologie politique. Oui. Et la question, c'est surtout de justice environnementale. L'écologie, la première question qu'elle pose, je trouve, aujourd'hui, c'est de justice environnementale. C'est-à-dire, qui paye actuellement la pollution? Qui va payer le prix de la catastrophe dans laquelle on est entré? Et je pense que c'est là aussi où Yourcenar était intéressante, c'est qu'elle avait, elle avait compris. Il n'y a pas d'écologie si on se met à dissocier un prétendu environnement naturel et les humains et les animaux. Le problème de l'écologie, c'est un problème de cohabitation qui part des non-vivants, en passant par les microbes, en passant par les animaux, par les arbres, par les forêts. Ce sont des problèmes qui sont indissociables.
C'est-à-dire qu'on est quand même tous dans le même bateau, quoi.
Oui.
C'est ça qu'on oublie. Vinciane Després, notre comportement avec les animaux est aussi parfois excessif. C'est que, bien entendu, comme dans tous les racismes, il y a de l'ignorance au départ. C'est-à-dire qu'on ignore que l'animal est une personne. On pense que c'est une chose. Vous l'avez dit au début de cette émission. Mais il y a aussi des comportements agaçants. Et ce qui fait que ce sont un peu les animaux qui payent à cause du comportement des humains. C'est-à-dire que de mettre à un animal des neuroses, du parfum, de l'emmener à l'hôtel, de lui donner du foie gras et tout ça, c'est pas juste.
C'est juste pour rien, en fait. C'est pas juste pour l'animal non plus, parce que anthropomorphiser un animal ne le rend pas heureux.
Évidemment
et ne permet pas de se sentir en sécurité dans une relation de respect, c'est-à-dire où on apprend à regarder comment est l'autre. Mais c'est vrai que ça fait partie, et c'est vrai aussi que, d'une certaine manière, il faut bien se dire que on est quand même dans un moment où les choses sont en train de changer. Depuis quand même quelques années, vous savez, s'il y a tellement d'émissions de télévision où on dit aux gens, on invite Super Nanny, on invite, je sais plus, Grand Frère, machin, ou etc. Ce qu'elle disait, c'est, on peut être irrité par toutes ces téléréalités, ces intimités, cette espèce de norme qui vient de l'extérieur où on dit aux gens, mais vous êtes des mauvais parents, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et puis, on peut le voir d'une autre façon, c'est de dire que, en fait, c'est-à-dire qu'il faut maintenant réinventer des normes et des règles parce qu'on ne sait plus très bien où sont les repères. faut les trouver. Et quand il n'y a pas beaucoup de repères et qu'on doit les inventer...
On se débrouille.
Ben on se débrouille, et puis il y a des gens qui font des choses qui sont plus extravagantes et qui sont parfois même antipathiques. Ouais. Mais bon, c'est une minorité, donc c'est pas...
Comment expliquez-vous, Vinciane Després, que dans le vaste monde des animaux, c'est d'ailleurs assez étrange, parce que finalement, l'humain, nous ne sommes qu'une espèce, on a l'impression qu'il y a les humains et puis toutes les autres espèces. Pourquoi il y a des espèces sympathiques, comme les chiens, les chevaux, les chats, et puis des espèces antipathiques? Il y a un article qui est sorti toute fin décembre dans Libération qui disait « il faut éradiquer les rats de Paris, il y en a trop ». C'est terrifiant. Et puis avec ça, il y a des temples en Inde où les rats sont vénérés. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les rats? On sait très bien que la peste n'est plus d'actualité. Et pourquoi est-ce qu'on aime les chiens?
Il y a des gens qui aiment les rats, et puis en Inde, on aime les rats. Dire les humains et tous les animaux en deux catégories, ça, c'est caractéristique de notre culture à nous. Donc, dans d'autres cultures, si vous interrogez Philippe Descola, si vous interrogez Eduardo Vivero de Castro, c'est pas du tout cette espèce de polarisation.
D'accord.
Vous allez avoir d'autres polarisations, puisque, par exemple, si vous interrogez les Amérindiens avec lesquels travaille Vivero de Castro, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire que le jaguar est un humain et qui se voit comme un humain, et que donc, il y a un fond d'humanité... Parce que les animaux, pas tous, mais presque tous, sont dotés d'une âme. Et donc la question pour eux, c'est pas est-ce qu'ils ont une âme, c'est est-ce qu'ils ont un corps. Parce que si on n'a pas de corps, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est un esprit. Donc voilà. Donc
c'est important la notion de corps, d'ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose que notre époque... On a la notion du paraître, c'est pour ça qu'on fait de la gymnastique, mais pas forcément de son corps, on ressent pas tellement son corps.
Oui, on n'a pas beaucoup d'occasions. Et donc, les catégorisations, donc dire les humains et les animaux,
c'est
nous ça.
Mais c'est pas tous les humains.
Donc c'est pas tous les humains. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a bien sûr des animaux avec lesquels on va entretenir de bons rapports, des rapports de convivialité, voire même de coopération, les chiens par exemple, les chats, les chevaux, hein, on aime encore bien, et puis il y a les animaux avec qui on est en concurrence très rude. Alors, certains des historiens disent que le souvenir de la peste reste malgré tout, qu'il reste quelque chose, et quand bien même il ne resterait pas, les rats sont considérés comme des terribles rivaux. Il ne faut pas oublier aussi que c'était des animaux qui pouvaient mettre en péril toutes les moissons, le blé.
Et ils nous prennent notre bien.
Voilà, c'est ça. Et donc, en général, quand il y a des rapports de rivalité terribles avec un animal et que cet animal est un bon concurrent, je veux dire qu'ils se débrouillent bien, qu'ils sont nombreux, qu'ils ont des stratégies reproductives qui sont efficaces, ben, il y a quelque chose qui va se passer et qui va être de l'ordre de la peur.
Il est malin. Il est suffisamment petit pour se faufiler.
Je ne sais plus qui disait ça, mais que si les rats, c'est chauvin, je crois que si les rats avaient mesuré 1m20, on était cuit. Qui sont tellement que Rémi Chabin qui
dit ça. Oui, mais remarquez, ils sont plus petits, mais ils sont nombreux et ils aiment la même chose que nous, c'est-à-dire le blé et des trucs
tout
comme ça. Ben dites donc, c'est pas gay.
Non.
David Essex, Rock On dans État d'esprit.
État d'esprit sur France Inter.
Vinciane Després, philosophe, psychologue, observatrice d'éthologue, vous avez écrit beaucoup de livres sur les animaux. Le dernier s'appelle « Le chez-soi des animaux ». Il s'adresse aux enfants à partir de 10-12 ans. Il est édité chez Actes Sud. Le chez-soi, ça parle de leur habitat. Et puis, vous avez écrit récemment aux éditions La Découverte au bonheur des morts. Et c'est intéressant parce que vous ne posez pas la question « croit ou croit pas à la vie après la mort, croit ou croit pas aux fantômes ». J'ai l'impression que ce n'est pas ça votre propos. Vous dites quand quelqu'un est là, puis un jour il n'est plus là, il est quand même encore un peu là. On ne peut pas disparaître comme ça d'une minute à l'autre. Donc comment vivons-nous avec nos morts? C'est ça que vous demandez?
Oui, en fait, c'est une enquête qui a commencé par ce constat que tant de personnes, alors qu'on est au 21e siècle, qu'on est en France ou en Belgique et qu'on se prétend tellement matérialiste et tellement laïque et que la croisade contre les croyances est censée avoir réussi et qu'au siècle de l'électricité, on est censé ne pas avoir de rapport avec les esprits, on va le dire comme ça. Et j'ai été étonnée du nombre de personnes qui continuent à entretenir la conversation avec leurs défunts, qui écrivent des lettres, qui font des choses. Ça, c'est terrible, parce que les gens peuvent faire des choses. Ça peut aller de la version la plus laïque matérialiste de dire... Je porte les chaussures de ma grand-mère pour qu'elle continue à arpenter le monde, disait une personne où je suis allée porter les cendres de mon père jusqu'en haut de l'Everest.
Les cendres, oui, ça fait une trotte. Hein.
Et ça fait une trotte, là, et c'est pas rien du tout, et en effet. J'ai pas fait moi-même, hein, mais je sais que c'est dur, et que pour qu'il puisse assister à un des plus beaux levers de soleil auxquels il ne pouvait plus assister. Enfin, les gens font des choses, ils parlent, ils mettent des fleurs devant, pas seulement sur les tombes, ils mettent des fleurs devant la photo. Quelqu'un de ma famille continue à préparer les plats. Le jour de l'anniversaire de son épouse, il continue à lui faire le plat qu'elle préférait. Et il fête l'anniversaire avec les enfants. Et c'est un jour particulier. Et donc, les gens continuent à faire des choses. Certains rêvent de leurs défunts. Et dans les rêves, reçoivent des conseils, voire des ordres. Parce que j'ai même vu des...
Donc, ils nous aident. Les morts aident les vivants.
Alors, ceux que moi j'ai rencontrés, je vais dire de vivants, qui avaient des rapports avec les morts, c'était des formes bienveillantes. Mais je ne suis pas clinicienne. Et il est fort possible qu'un clinicien thérapeute aurait probablement dans son cabinet des gens qui ont peut-être mal à partir avec des morts remuants qui pourraient peut-être leur demander un peu trop ou les empêcher de vivre ou carrément leur pourrir la vie.
Cela dit, Vinciane Després, les morts sont comme les vivants. Chez les morts, il doit y avoir des lourdingues.
Il doit y avoir des lourdingues, des emmerdants.
Ben oui.
Et puis on peut continuer dans une carrière posthume le fait de pourrir la vie des gens si on avait bien commencé. On peut imaginer ça très bien. Mais moi, ce qu'on m'a raconté, parce que je pense que le contexte d'énonciation est important, le contexte dans lequel je récoltais les histoires, c'était des contextes généralement publics où les gens me racontaient leurs histoires parce qu'ils m'avaient demandé auparavant sur quoi vous travaillez pour le moment. Tiens, on vous entend plus beaucoup parler d'animaux ces derniers temps. Est-ce que vous êtes sur autre chose? Je dis, oh, ben, j'ai envie de travailler un peu là-dessus parallèlement. Et les gens me racontaient des histoires. Les morts qui pourrissent la vie, je pense que c'est pas dans ce contexte-là qu'on l'aurait raconté aussi facilement. Mais j'en entends encore tous les jours. Je veux dire, je reçois encore des mails de personnes qui me racontent des histoires d'une inventivité extraordinaire. Ces personnes mortes et vivantes manifestent une telle créativité pour que la vie reste belle malgré tout, pour qu'il y ait encore du courage, pour qu'il y ait encore de l'amour, pour qu'il y ait encore de la joie, parce qu'il y a de la joie dans ces affaires-là, pour qu'il y ait des formes même d'humour terribles. Hein. Vous savez, les gens peuvent parfois aussi me raconter des histoires dont ils disent « Est-ce que j'aurais jamais imaginé que ça pourrait m'arriver ?» Et c'est fabuleux.
En fait, vous n'aimez pas cette expression « Vinciane Després faire son deuil », qui est une expression assez récente d'ailleurs.
Oui, pas beaucoup, non. Je pense que c'est une expression qui demande aux gens d'accomplir un travail, que ce travail, quand on essaie de le décrire, est essentiellement fondé sur une conception matérialiste et laïque de la mort, comme si elle devait être partagée d'office par tout le monde. Que cette conception soit tout à fait intéressante, oui, bien sûr, qu'elle est historiquement datée, oui, qu'elle est culturellement située aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est notre conception à nous, mais qu'elle soit d'office imposée au nom d'une santé mentale à devoir protéger, comme dirait Dominique Mémy, la sociologue, là je m'insurge. Je dis non, le deuil c'est pas un travail et c'est pas un détachement. Et donc si c'est ni un travail ni un détachement, peut-être que le mot pour le moment est un peu trop chargé, je vais l'éviter. Donc j'essaie de l'éviter simplement en me disant tant qu'on ne l'aura pas un tout petit peu libéré de ses obligations de détachement et de ses obligations de travail, comme si on allait devoir accomplir quelque chose qui est de l'ordre de se débarrasser des illusions et du fantasme pour revenir au principe de réalité. Non, moi, ça ne me plaît pas comme projet.
Disons qu'il faut arriver à vivre avec l'absence, parce que malgré tout, c'est ça qui est douloureux, c'est cette absence. Vivre avec l'absence, et malgré cette absence, il peut y avoir une nouvelle forme de présence qu'on peut tricoter avec notre présence à nous de vivant. Et puis, vivre, quoi.
Oui, tout à fait.
Vivre avec cette absence, mais qui est aussi une nouvelle... un nouvel état.
Tout à fait. Vous parlez de tricoter, je trouve que c'est très joli. Il faut plusieurs aiguilles pour tricoter. Alors, ouais. Deux, ça peut suffire, mais quatre, c'est bien
encore
aussi.
Plus, ouais.
Et puis, on peut
broder.
Et puis, on peut broder, et puis on peut crocheter aussi. Ouais, alors là, ouais. Ça complique encore les choses. Ça peut faire des jolies chaînettes qui font des beaux réseaux. Et puis, on peut faire aussi ce que Donna Haraway appelle le cat scraddle, ce jeu, le berceau du chat, où il faut plusieurs mains pour tisser une histoire. Et ouais. Chacun reprend ce que l'autre lui donne et le reprend et responsable d'une nouvelle figure qu'il va devoir céder à l'autre.
Merci Vinciane Després. En tout cas, vous vous intéressez vraiment les animaux et les hommes qui sont là et ceux qui n'y sont plus. Ce sont des choses très intimes, très profondes, c'est ce qu'on disait au début, dont on ne parle pas volontiers. C'est pour ça que vous êtes forte pour avoir réussi à recueillir toutes ces histoires qu'on peut lire dans vos livres. Et le petit dernier s'appelle « Le chez-soi des animaux ». Il est édité chez Actes Sud. Il intéressera les grands et il s'adresse d'abord aux petits à partir de 10-12 ans.
Oui, c'est cela.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La semaine prochaine, nous recevrons le docteur Christophe André. Cette émission a été préparée par Emmanuel Fournier, Élodie Royer était à la prise de son, Simone Depoux à la réalisation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Après les informations, vous retrouverez Brigitte Patient pour Regarder Voir. Elle recevra le photographe chinois Gao Bo.